This is a picture
Voici une
of
photo de notre dernière petite fille, Summer. Elle a 3 mois aujourd'hui, elle commence tout juste sa vie en tant que tout petit être humain. Et je pourrais aussi montrer des photos d'autres bébés qui sont ici aujourd'hui, dans des familles de cette congrégation. Mais le fait est que, en tant que famille, nous nous réjouissons lorsqu'une nouvelle naissance arrive, quand ce petit bébé, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, est amené au monde, il devient un membre de notre famille. Et c'est un modèle qui se distingue, et je pense que nous tous dans cette salle, nous le reconnaissons facilement, un homme et une femme qui se rapprochent l'un de l'autre, un couple qui s'aime, qui décide de s'engager l'un envers l'autre et de se marier, et qui s'unit. Et en s'unissant comme un seul être, ils sont bénis par la naissance d'une nouvelle vie, la naissance d'un petit enfant, et ce petit enfant est pris en charge, il est éduqué, aimé, nourri par une mère aimante et un père aimant. Et au fil du temps, ce petit enfant grandit. Il est témoin du rôle de sa mère et du rôle et des actions de son père. Et cet enfant grandit pour devenir un jeune homme ou une jeune femme, et le cycle se répète. Vous savez, la procréation humaine est un modèle de notre société civilisée depuis des siècles, quelque chose que certains ici tiennent peut-être pour acquis. Et pourtant, ce modèle a subi une mutation grossière, et le cycle a radicalement changé par rapport à ce que je viens de mentionner, un changement impactant les fondements même de la civilisation humaine, une transformation qui détruit l'ordre créé par Dieu, un séisme dans le fonctionnement de la société civilisée, avec l'intention d'éteindre la connaissance et la promulgation du plan même de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, je veux vous parler du plan de Dieu pour la famille humaine et des efforts déployés par Satan pour détruire ce modèle et de la façon dont nous, nos enfants, nos familles, nous-mêmes, nous devons respecter, vivre le plan de Dieu pour l'humanité et répondre finalement à 3 questions fondamentales. Premièrement, d'où viennent réellement les institutions du mariage et de la famille ? Deuxièmement, sont-elles importantes à ce point? Et troisièmement, et si oui, pourquoi? Il y a 70 ans, j'ai grandi dans une petite ville de près de Détroit, dans le Michigan, la ville de Ferndale. J'étais le plus jeune de 3 frères. Nous avions tous 2 ans d'écart. Nous habitions une vieille maison à charpente en bois de 90 mètres carrés. Et je me souviens encore aujourd'hui de l'adresse, au numéro 3226 de la rue Grayson. Les 3 garçons, eh bien, nous dormions dans la même chambre et dans le même lit. Nous avions 6 ans, 4 ans et 2 ans sur cette photo, Joe, Mikey et Dougie. Mon père travaillait dans une aciérie. Ma mère cuisinait, faisait le ménage, restait à la maison, s'occupait de nous, les garçons. Elle était aussi caissière à temps partiel chez Kroger et la secrétaire aussi de l'association locale des parents d'élèves. Elle était aussi la cantinière de notre troupe locale de scouts. Mon père, quant à lui, aimait jouer au bowling dans une équipe des employés de l'aciérie. Il aimait le plein air, il aimait aller à la pêche et emmener ses 3 petits garçons dans le nord, en été. Et quand nous avons grandi, nous allions camper dans une tente avec un réchaud Coleman pour cuisiner. Mon père était bricoleur, peintre, réparateur, constructeur. Alors, je sais que ma famille n'était pas parfaite, je le comprends. Mais nous savions qui était notre mère. Nous savions qui était notre père. Et nous savions que nous étions la famille Orchak. Et comme la plupart des enfants du quartier autour de nous le savaient aussi. Mais vous savez, à cette époque, dans les années 50, pour être exact, les médias avaient tendance à refléter ce que j'appellerais les normes idéales du mariage et de la famille avec des séries télévisées dont certains d'entre vous se souviennent peut-être en France, Quand on est deux avec Odette Laure, ou qui pourrait encore oublier Les Saintes Chéries avec Micheline Prel. Et puis, plus récemment, Une famille formidable avec Annie Dupéret. Et je pourrais encore citer bien d'autres séries. Bien sûr, notre vision de la famille a été façonnée par notre propre expérience avant tout, mais aussi par les médias, dans une certaine mesure, sans compter la tradition familiale, l'histoire du pays. Alors, il est vrai que nous ne devons pas nous leurrer, et je ne me fais pas d'illusions en croyant que les acteurs, les actrices, dans certaines de ces séries télévisées il y a 70 ans, auraient eux-mêmes modelé la manière dont Dieu conçoit les relations entre mari et femme. Non, pas du tout. Mais ce qui était reflété dans les médias était alors plus proche de ce que nous comprenons traditionnellement comme étant le modèle familial. Nous nous retrouvons maintenant, 70 ans plus tard, en 2025, avec une culture très différente dans la société occidentale. Et les historiens parmi vous comprennent que ce modèle dont je parle s'est répété à plusieurs reprises tout au long de l'histoire dans certains grands empires. Or, nous parlons de l'époque actuelle. Le mariage traditionnel d'un homme et d'une femme engagés l'un envers l'autre et envers leurs enfants est en train de disparaître. L'éradication délibérée de la vie d'un fœtus humain avant sa naissance est malheureusement pratiquée au point d'affecter des centaines de milliers de personnes. Les relations et la famille elle-même sont en train d'être redéfinies. Les gens sont confus quant à leur propre orientation sexuelle, leur genre et leur identité. Et nous voyons les institutions et les médias nous présenter ces choses comme normales et naturelles. Mais d'où vient le mariage? D'où vient la famille humaine? Je voudrais maintenant revenir au livre de la Genèse en citant quelques passages dès le chapitre 1, et j'aimerais me concentrer particulièrement sur ce que nous allons lire, non pas avec l'optique plus large que nous devons parfois utiliser, mais dans Genèse chapitre 1, nous comprenons à quel point le noyau familial est en fait crucial, en particulier vis-à-vis du plan de Dieu, et comment il révèle l'origine de ce que nous savons être la famille humaine. Alors, qu'est-ce que la famille humaine? Est-ce simplement la version Homo sapiens de la procréation dans le monde animal? Est-ce que c'est cela? Vous savez, beaucoup de gens le croient. Mais dans Genèse, chapitre 1, les tout premiers versets, on lit dès le verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et nous savons que dans les versets qui suivent, « Dieu nettoya la terre, il créa les océans, il rendit le système solaire visible, il permit aussi l'apparition du jour et de la nuit. » Et puis les versets 6 à 24, donc dans la majeure partie du chapitre 1 du livre de la Genèse, donne vraiment un aperçu complet de la création. C'est un arrière-plan que la plupart d'entre nous connaissent bien. Certains presque mot pour mot d'ailleurs. Et c'est un aperçu de ces 6 jours de la création. Il est fait référence au ciel et au firmament, et puis aux bêtes de la terre, de la mer et dans l'air, dans la création de Dieu. Et ensuite, le récit prend une tournure dramatique. Quelque chose change radicalement dans ce que Dieu révèle ici au chapitre 1. Parce qu'il faut un tournant dramatique pour se concentrer sur le summum de la création de Dieu. Je voudrais que vous preniez note dans les prochains versets que nous allons lire de leur aspect fondateur concernant le but de la vie et finalement sur le but de l'univers quand vous y pensez. Quand nous lisons ces versets, il y a un objectif unique. Et je voudrais que vous réalisiez l'importance de ce que Dieu a conçu, la raison de sa création, sa façon d'interagir avec ceux qu'il a créés, et aussi comment Dieu s'y est pris pour les instruire sur eux-mêmes, sur leur avenir. Verset 26 dans le premier chapitre de la Genèse. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc nous voyons donc que Dieu a fait ici une déclaration de création de l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais ensuite au verset 27, il continue, il dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. En examinant ces quelques passages des Écritures, nous voyons vraiment comment Dieu considère cet élément de son ordre créé. Nous trouvons deux mots particuliers, à savoir que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Nous trouvons cela uniquement dans le cas de l'humanité. Et le mot hébreu, traduit en français par « image », est en fait un terme masculin, « tselem », qui signifie une ressemblance comme une image découpée. Certains parmi vous, des parents, vous faites avec vos enfants des découpages de papier. Eh bien, cela reflète en quelque sorte ce mot. Mais le terme traduit par « ressemblance » en hébreu est « demut ». Et cela consiste à comparer deux choses qui sont semblables, mais pas exactement identiques. Donc nous voyons par le dessein de Dieu et par ce que Dieu révèle ici, dans le livre de la Genèse, que la biologie est très précise en fait. Dieu est très présent dans la manière dont il décrit son ordre créé ici. La science confirme qu'il y a et qu'il n'y a que deux sexes biologiques. Chaque homme a un chromosome X et un chromosome Y, et nous savons que chaque femme est née avec deux chromosomes X. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Cela se traduit par les différences entre nous tous, hommes et femmes, dans cette salle aujourd'hui. Il est maintenant reconnu aussi qu'il existe des circonstances extrêmement rares où ces chromosomes se mélangent et qu'une personne naît en fait avec les traits des deux sexes. Mais nous savons aussi que par le dessein de Dieu, nous sommes soit un homme, soit une femme. J'ai lu récemment un article très intéressant publié en fait il y a 4 ans, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à l'origine de cet article, qui l'a écrit et ce qui a été dit au sujet de l'homme et de la femme. Son auteur est une dame, le docteur Anna Machin, une anthropologue évolutionniste. Pensez-y un instant. C'est sa profession. Et elle a reconnu dans ses recherches pendant plus de 10 ans, et notamment dans cet article, que les humains sont vraiment uniques par rapport au monde animal. Historiquement, vous ne trouvez pas beaucoup de biologistes évolutionnistes qui reconnaissent cela. Mais au fil du temps, de nombreux anthropologues commencent à comprendre, car cela est basé non seulement sur la génétique, mais aussi sur les actions des êtres humains et sur l'anthropologie. Anna Machin a dit que les humains sont vraiment uniques dans le monde animal en raison de ce qu'elle appelle l'importance de la paternité humaine, entre autres choses. Et le titre de cet article fascinant est « La merveille du père humain ». Son explication est assez révélatrice et même inspirante, soit dit en passant, mais dans ses commentaires sur l'évolution, elle explique la raison pour laquelle l'homme a évolué de cette façon par opposition à la raison pour laquelle le mâle aurait été créé de cette façon. Et bien sûr, elle doit supposer l'influence évolutive de centaines de millions d'années pour que ces choses puissent devenir une partie de l'ADN des mâles. C'est sur cela qu'elle se concentre vraiment, ce n'est pas une question de comportement appris. De nombreuses sources au cours des 30 et 40 dernières années nous ont dit que la raison pour laquelle les garçons agissent comme ils le font, c'est simplement parce qu'on leur a appris à agir de cette façon. Et il peut y avoir une part de vérité dans cette affirmation, mais ce qu'elle a découvert, elle, c'est qu'il existe des différences génétiques en termes de force entre les hommes et les femmes. Et elle le reconnaît certainement avec les femmes. Mais il faut noter ce qu'elle a à dire sur les hommes, les pères en particulier, à travers une longue explication du caractère unique de chaque sexe. Nous ne parlons pas de ce qu'ils ont appris. Les compétences vitales, la survie, l'épanouissement, la négociation, la récompense de la dopamine. Vous savez ce que c'est, la dopamine, c'est cette substance chimique qui est libérée dans le cerveau quand vous faites quelque chose que vous aimez. Une récompense, en quelque sorte. Que l'on soit en présence, je ne sais pas moi, d'une crème glacée ou d'autres plaisirs. le sexe, la drogue. Et ce que le docteur Mechin a découvert dans ses recherches, c'est la libération de dopamine dans le cerveau masculin lorsque le père a une interaction saine et privilégiée avec ses enfants. Qu'il s'agisse de trouver des solutions face à des risques ou des problèmes, développer la résilience mentale, de création de liens d'amitié ou de pratiquer des jeux virils, cela ne veut pas dire que cela concerne tous les hommes. Mais c'était un article intéressant venant d'une anthropologue évolutionniste. Sa conclusion est un aveu selon lequel Dieu a créé les hommes et les femmes différents pour une raison, comme les Écritures le disent. Dieu a conçu et planifié les deux sexes de façon distincte, hommes et femmes, pour une raison. Alors, quelle était son intention ? Attention, je ne suis pas en train de dire que si vous n'avez pas d'enfants ou si vous ne pouvez pas vous marier d'une manière ou d'une autre, vous seriez dans votre tort ou vous pécheriez ou vous seriez une personne moins importante. Non, nous savons que ce dont nous parlons vraiment, c'est en fin de compte le dessein idéal de Dieu, le plan idéal de Dieu. Mais dans Genèse chapitre 2, nous voyons encore d'autres preuves des intentions créatrices de Dieu. Dieu parle ici du jour du sabbat, de la façon dont il a été sanctifié, institué, quand Dieu s'est reposé le jour du sabbat. Nous le savons et nous le comprenons. En fait, dans le récit de l'Évangile selon Marc, il est dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Il existe une autre façon de renforcer le fait que Dieu a créé l'homme de la façon dont il l'a fait et a même établi sa loi pour l'avenir de l'homme. Mais dans Genèse, chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Alors maintenant, le mot hébreu traduit par « forme » est « yatsar », qui signifie « presser, former comme le ferait un potier ». Et nous comprenons cette métaphore, utilisée non seulement par l'apôtre Paul dans certains de ses écrits, mais aussi dans le livre d'Ésaïe, où Dieu nous forme de cette façon dans le processus même de notre croissance personnelle. Et ce terme est utilisé dans Genèse chapitre 2, au verset 8. Dans les versets 15 à 18, nous savons que Dieu a instruit Adam et lui a donné le jardin, ainsi qu'à toute l'humanité, pour qu'elle puisse en profiter, avec les arbres qui s'y trouvaient. Et pourtant, il y avait un arbre dont Dieu a ordonné à Adam de ne pas manger le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attends, nous croyons, parce que nous lisons ce que nous lisons dans les Écritures, que Dieu enseignait Adam et qu'Adam était disposé à écouter son Père céleste, son Créateur. Rappelez-vous, il n'avait pas d'autre relation comparable à celle qu'il avait avec Dieu. Comme lorsqu'un petit enfant naît, grandit en connaissant uniquement son père et sa mère, pour Adam, ce n'était pas exactement la même expérience, mais il savait qui était son créateur. Et de toute évidence, Dieu lui avait donné des instructions dans ce contexte. Il y avait une volonté de croire en Dieu, et nous savons que ces deux arbres en particulier étaient importants. Et sans le moindre doute, en abordant même le sujet du mariage et de la famille, c'est ce que Dieu a fait finalement, comme nous allons le lire. Et puis, dans le verset 18 de Genèse, chapitre 2, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » Je lis ce passage de la Bible et cette déclaration ici, au sujet de laquelle nous pourrions penser, « Oh là là, pauvre garçon, il est tout seul, et Dieu a finalement compris qu'il aurait besoin de compagnie, qu'il aurait besoin de quelqu'un avec qui jouer, vous savez, comme le feraient deux enfants. » Eh bien, lisons à nouveau ce qui est dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et ces mots sont importants dans le cadre du plan de Dieu pour l'humanité, de son dessein et de son projet pour la famille. Comprenons bien que ce n'était pas une réaction à la solitude d'Adam. Robert Alter est un universitaire respecté, il est spécialiste de l'hébreu et il a écrit un commentaire sur le livre de la Genèse. Il traduit ces mots de façon très similaire. Un soutien à ses côtés en parlant de la femme qui serait créée, ou encore opposé à lui, ou homologue à lui. Mais Robert Alter dit que la traduction « aide » du mot hébreu « ézer » est un terme trop faible. Il ne reproduit pas vraiment la signification « désert » en hébreu, en particulier si l'on considère le fait qu'il est utilisé tout au long de l'Ancien Testament pour décrire la relation de Dieu à des moments très cruciaux avec la nation d'Israël. Il ne s'agissait donc pas simplement d'une fonction auxiliaire d'aide, comme un enfant qui aiderait son père à porter des bûches de bois de l'arrière-cour vers le devant de la maison. Non, c'est un contexte plus vaste. Ézer évoque une intervention active en faveur de quelqu'un, pour l'aider à remplir sa vocation, à devenir quelqu'un d'accompli, de réussi. Et Genèse 2, verset 18 n'est pas une compréhension nouvelle pour nous. Il est important, il est significatif de rappeler ce que Dieu veut précisément dire au sujet de la famille humaine telle que nous l'envisageons généralement. La famille dans le contexte du mariage et des enfants. Alors, Adam a-t-il trouvé quelqu'un? Vous savez, Dieu est celui qui permet à ses enfants de découvrir des choses. Lorsque nous sommes appelés dans l'Église, nous ne sommes pas soumis à du bourrage de crâne. Nous devons prouver la véracité de ce que nous entendons. Et peut-être beaucoup parmi vous sont venus dans l'Église de Dieu suite à une affirmation présentée par quelqu'un, et selon laquelle, par exemple, le sabbat n'était pas le dimanche, ou que Noël n'est pas biblique, mais que les jours saints, eux, le sont. Quoi qu'il en soit, certains ici, moi inclus, ont commencé leur parcours spirituel assez tôt pour penser que c'était faux, mais pour finalement découvrir, après avoir examiné objectivement les Écritures, que cette affirmation était en fait correcte. Et comme avec Adam et Ève, Dieu veut aussi que nous prouvions des choses. Et notez ceci dans Genèse chapitre 2, verset 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » Il y a deux façons de voir les choses. La première, Adam a décidé d'un mot pour chaque espèce animale. En somme, il donnait un nom aux espèces que Dieu avait créées. Et une question se pose. Dieu lui a-t-il indiqué la meilleure façon de procéder? Eh bien, peut-être l'a-t-il fait dans une certaine mesure, mais une chose est certaine, il l'a effectivement donné à Adam, la latitude de nommer les différentes espèces animales. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et combien de temps a-t-il fallu à Adam pour identifier ces différentes espèces? Peut-être des jours, voire des semaines, nous ne le savons pas. En tout cas, cela ne s'est pas produit en une après-midi, j'en suis persuadé. Mais aucune de ces espèces ne savait remplir le dessein de Dieu en termes de relation avec Adam. Il ne s'agissait pas d'un problème de solitude, mais d'une question de finition, d'accomplissement. C'était la volonté de Dieu pour achever son ordre créé par le summum même de sa création. Et remarquez la méthodologie de Dieu que nous trouvons ici au verset 21, Genèse 2, 21. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, maintenant, c'est la première fois qu'Adam parle dans un livre. Je ne doute pas qu'il ait parlé avant cela, mais ce sont les premières paroles que nous ayons dans un livre, que nous ayons venues d'Adam. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il savait ce qu'il dit ici. Il le savait d'une certaine manière. Il savait cela. Or, il savait que quand il a été anesthésié, il dit, et ensuite nous trouvons Dieu dit ceci au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, médicalement parlant, vous savez ce qui s'est passé. Dieu a endormi Adam, il a été anesthésié. Combien d'entre vous dans cette salle ont subi une opération chirurgicale ayant requis une anesthésie? Peut-être une poignée parmi vous, sinon plus. Vous subissez une injection et cela vous endort. Et ici, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un anesthésiste de l'hôpital. Et pendant qu'Adam était profondément endormi, Dieu a pratiqué une opération chirurgicale parfaite en prélevant une portion de la cage thoracique d'Adam, et il a utilisé cette portion et son ADN pour créer son homologue et pour achever ainsi la création physique de l'humanité. Et puis nous lisons au verset 27, Genèse chapitre 20, verset 27. Rappelons-nous cela, nous l'avons lu dans le dernier chapitre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne s'est accompli que dans la création de l'homme et de la femme, ce qui est très clairement indiqué dans Genèse 1. Au 21e siècle, avec nos connaissances sur l'ADN, il est tout à fait logique que Dieu ait créé Ève à partir du corps d'Adam, qui contenait déjà tous les éléments nécessaires pour qu'Ève soit sa partenaire féminine parfaite. En 1978, un livre a été publié, je m'en souviens, c'était à l'époque où le clonage était en question. Cette technologie a commencé à être utilisée avec des animaux, rappelez-vous, et certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Mais ce livre, intitulé « À son image », a été écrit en 1978 par le journaliste et romancier David Rorvik. Il racontait l'histoire, censée être vraie, d'un multimillionnaire qui voulait se faire cloner. Et le livre a fait la une des journaux pendant un certain temps. Cet homme n'avait pas d'héritier naturel pour sa succession. Et je ne dis pas qu'Ève était un clone d'Adam, sinon elle aurait été un homme. Toutefois, c'est ainsi, c'est de cette façon que Dieu a parfaitement commencé l'ordre de sa création, une création parfaite. En fait, il y a quelques traductions de l'hébreu ici au chapitre 2, où Adam dit en fait « Elle vient de moi ». Vous savez, dans la phrase que nous avons lue, il savait qu'elle venait de lui, et elle savait évidemment aussi qu'elle venait de lui. Et puis, au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, nous connaissons très bien ces versets. Nous les lisons en préparation d'un mariage et plus directement lors de la cérémonie. Beaucoup d'entre nous, y compris ma femme Tania et moi-même, nous avons entendu ce passage des Écritures le jour de notre mariage. Dieu montre vraiment ici que cette forme de vie, et nous parlons ici de cette vie créée à son image, cette vie devait exister et interagir différemment du reste de l'ordre créé. Elle était unique, elle était différente. Cette espèce, et je n'utiliserai cette terminologie que pour la distinguer du règne animal, elle possédait une relation et une structure très particulière. Lorsqu'une nouvelle famille commence, les membres quittent leur famille d'origine et fondent une autre famille ensemble en tant que mari et femme, devenant une nouvelle unité familiale et ainsi de suite. Cela se répète. Souvenez-vous, ce commandement que nous trouvons ici dans Genèse chapitre 2, verset 24, a en fait été donné à l'homme après qu'Adam et Ève aient déjà été mariés et femmes. Adam et Ève n'ont pas quitté une famille humaine pour se réunir. Cela a été inclus dans le récit qui sert de contexte pour une instruction de ce que Dieu avait prévu après. C'était son intention. Autour d'Adam et Ève, il n'y avait pas d'autres pères ou d'autres mères, lorsqu'ils ont été créés, bien sûr. Mais l'instruction du père d'être fécond, de se multiplier, montre bien l'intention de cette relation entre un homme et une femme. L'objectif de Dieu était d'amener de nombreux fils et de nombreuses filles dans la famille humaine, en fin de compte, pour un but bien plus grandiose. Et il est important de se souvenir de cette déclaration d'amener de nombreux fils et de nombreuses filles dans la famille. Mais le chapitre suivant révèle aussi beaucoup de choses. Je pense que nous savons tous que le chapitre 3 de la Genèse est vraiment le pivot de l'histoire de l'humanité à bien des égards. Or, nous savons que dans les premiers versets, il est dit, verset 1, « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Et cela est en quelque sorte prouvé dans les versets suivants, quand Satan répond par le mensonge selon lequel vous ne mourrez point. Si vous mangez de ce fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis dans son discours avec Ève au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors ce dialogue entre Ève et le serpent, que nous savons être une référence à Satan, est vraiment au cœur du résultat de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment une réaction à cette conversation a-t-elle pu déterminer le cours des événements humains dans l'histoire pendant 6000 ans? Eh bien, c'est pourtant le cas. Je ne blâme pas Ève, vous savez. J'ai grandi en tant que catholique et de nombreuses confessions croient en ce qu'on appelle la chute d'Adam. Et il y a une part de vérité dans leur lecture du dialogue ici de Genèse chapitre 3. Il ne fait aucun doute que l'humanité est tombée en proie à la tentation de l'égoïsme. Mais nous n'irons pas trop loin sur cette voie. Sauf que cette interaction, et c'est important de s'en souvenir, frères et sœurs, Satan avait une intention à propos d'Ève. Il ciblait la relation entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève, mari et femme, formant une famille. Il a visé, il a ciblé cette relation. Et la personne vers laquelle il s'est tourné et sa façon d'interagir avec son mari. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et nous comprenons qu'ils ont choisi par ces actions de décider par eux-mêmes de ce qui était correct, de ce qui était juste, de ce qui était mal, de ce qui était normal et de ce qui était anormal. Ils faisaient effectivement ce choix de manière représentative concernant la vie, concernant les relations, y compris leur relation en tant que mari, femme et famille. Et le résultat, bien sûr, dans la dernière partie du chapitre 3, la Genèse, c'est que Dieu a déterminé que l'homme et la femme seraient livrés désormais à eux-mêmes. Genèse 3, 24 est vraiment le passage biblique pivot de l'histoire de l'humanité. Avant cela, l'homme, en la personne d'Adam et Ève, créé à l'image de Dieu, avait été sous le parapluie de l'enseignement de Dieu et de ses grâces. Ils avaient la latitude de faire des choix. Mais une fois ce choix fait, que nous lisons au verset 24, ce qui se passe, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a laissé le résultat des choix de l'homme entre leurs mains, y compris la compréhension humaine de la famille, du mariage, des enfants et de tout ce qui est impliqué. Maintenant, nous lisons dans Genèse chapitre 6 et quelques chapitres plus loin dans le même livre que l'humanité s'est tellement éloignée de Dieu et de sa voix à cause du mal continuellement dans l'esprit, continuellement dans le cœur des êtres humains que Dieu l'a détruite entièrement par le déluge à l'exception d'une famille. Alors vous et moi, nous sommes pleinement conscients de ce que nous lisons dans Genèse chapitre 6, 7 et 8. Nous l'avons peut-être entendu lire, même dans des histoires bibliques pour enfants. Je ne crois pas que nous puissions vraiment réaliser ce que cela représente, d'être dans un monde dans lequel meurent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, et y compris toute vie, toutes les créatures terrestres. Mais c'est arrivé ainsi, sauf pour une seule famille, la famille de Noé. Pourquoi cela est-il important? Pensez-y. Quel est le fondement du plan de Dieu? Fondement signifie la fondation. Le plan de Dieu implique des êtres, n'est-ce pas? Maintenant, nous savons qui sont les êtres humains. Nous en faisons partie en tant que créatures vivantes. Et je ne veux pas vous appeler de cette façon, ni vous laisser à penser que c'est tout ce que vous auriez retiré du sermon. Techniquement, nous sommes des créatures, mais nous sommes surtout des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et ce plan n'aurait aucun sens sans cette création, avec leur raison d'être, leur fondement. Car l'environnement au sein duquel cet ordre créé prospère, c'est la famille que Dieu a conçue. Vous savez, nous avons lu que l'homme et la femme, en tant que couple, constituent la famille conçue par Dieu. Le désir de Dieu, c'était de bénir les humains qui comprennent cela et qui fonctionnent dans cette relation. Mais le rejet de Dieu, de sa voix, de son enseignement, de son autorité, a laissé l'humanité dans le chaos, dans la confusion, la douleur, la perversion et le mal. Dieu a conçu le mariage et la famille, il a donné à l'humanité le mariage et la famille, et il y avait une raison à cela. De sorte que nous n'oublions pas l'importance de cette union. Il faut être capable de voir, à travers la tentative de Satan de perturber cette union, avec des définitions perverties du genre, du mariage, de la famille, le fait qu'il ne peut pas faire partie de cette famille. Il y a une raison au mariage tel qu'il est défini dans la parole de Dieu. Et bien sûr, nous vivons dans un monde où vous réalisez qu'il y a des millions de personnes mariées ou en couple qui ont eu des enfants, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église de Dieu et qui ne sont peut-être même pas chrétiennes. Alors comprennent-elles le plan de Dieu? Dans la mesure où ces mariages ont été une réussite, et je ne veux certainement pas que quiconque dans cette salle pense « J'ai été dans une famille qui a eu des difficultés ou avec des mariages qui se sont effondrés, je serai en quelque sorte une personne inférieure. » Non, je ne veux pas dire cela du tout. Mais ce que l'Écriture dit assez clairement, c'est que dans la mesure où un couple s'engage l'un envers l'autre et a des enfants, qu'ils se soucient l'un de l'autre et montrent de l'amour, du moins dans la mesure où un être humain, même sans l'Esprit de Dieu, peut le faire, qu'il le sache ou non, je veux mettre en lumière le fait qu'ils ont un petit avant-goût déjà de ce que le Créateur a prévu sur le plan spirituel pour toute l'humanité. Or, que lisons-nous dans 1 Corinthiens chapitre 2? Qu'est-ce que Paul a écrit à l'Église? Il a dit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Seuls ceux qui sont convertis, qui l'aiment, sont capables d'assembler les pièces de cet incroyable puzzle du plan de Dieu. Comme vous et moi, nous pouvons le faire. Et cela est humainement fondé sur ce que nous lisons ici aujourd'hui. Le message à la véritable Église depuis des millénaires est celui de l'intention de Dieu. Et le message que Christ a apporté à l'Église, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le plan directeur de Dieu pour l'homme, n'est-ce pas? La compréhension de l'apôtre Paul dans l'Église du premier siècle, 4000 ans plus tard, à partir du récit de la création, c'est particulièrement révélateur. Dans Éphésiens chapitre 3, et je ne lirai pas tout le chapitre, sauf qu'il est dit ici dans Éphésiens chapitre 3 que Paul parle du mystère du plan de Dieu. Et certains d'entre vous se souviendront peut-être, il y a plusieurs décennies, l'Église a publié un livre intitulé « Le mystère des siècles », un ouvrage basé sur les commentaires de l'apôtre Paul ici dans Éphésiens chapitre 3. Et puis il y fait référence à un dessein éternel dans Éphésiens chapitre 3 versets 9 à 11. Et quel était ce dessein éternel de Dieu? Quel était-il? Quelle est la destinée de l'homme? Alors c'est une question que j'avais posée dès le début, et je sais que la plupart d'entre vous dans cette salle pourraient sans doute en donner une description assez précise, basée sur ce que vous et moi comprenons de ce plan. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, l'auteur, qui est probablement Paul, cite les psaumes, en fait, le roi David, qui dit ceci. Qu'est-ce que l'homme? Vous savez, David parle à Dieu et il lui demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous sommes si petits ici sur la planète Terre et les cieux sont si grands. Pourquoi, Éternel, t'intéresses-tu autant à moi, David, dans ce cas? Ou même à l'humanité? David connaissait dans une certaine mesure la réponse à cette question. Et voilà l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui pose la même question fondamentale. Et c'est au verset 10 que nous en trouvons la réponse, en grande partie. Car il parle de l'importance d'amener beaucoup de fils à la gloire et de construire cette famille. Nous savons ces choses. C'était le but de Dieu. C'est son objectif. Il ne l'a jamais perdu de vue. Dans ce que nous lisons au sujet des relations de Dieu avec ses serviteurs, que nous trouvons énumérés dans Hébreux chapitre 11, dans l'histoire de Dieu traitant avec la nation d'Israël, tout cela se concentre sur son but ultime, sur ce qu'il veut que l'humanité expérimente. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul fait référence à ce qu'il a compris, même si les Écritures qu'il a lues, dans ce que nous appelons le Pentateuque, la Torah ou la loi, c'est ce à quoi il avait accès. Remarquez dans Romains chapitre 8, verset 14, Romains 8, 14, donc je m'avance ici sur une pensée, mais une pensée très importante, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il expose cela spécifiquement. Une fois que vous êtes devenu membre de l'Église par la repentance et le baptême, puis l'imposition des mains et la réception du Saint-Esprit de Dieu, vous êtes à ce moment-là devenu un embryon, un fœtus spirituel. Vous êtes un fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu associé à notre esprit humain, l'Esprit dans l'homme, Paul, apôtre, fait ici vraiment référence à la même chose qu'il a faite dans 1 Corinthiens chapitre 2, lorsqu'il a déclaré que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent profondément les choses spirituelles. Verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous savons que Jésus est appelé le premier-né parmi plusieurs frères. » Le premier-né d'une famille extrêmement nombreuse, dont les débuts sont attestés par les membres de l'Église de Dieu, qu'ils soient décédés ou vivants de nos jours, mais qui conduiront à l'accès de toute l'humanité finalement. Nous avons un Père spirituel auquel nous avons parlé au moins une fois aujourd'hui. Nous sommes ses enfants, et c'est le but du plan de Dieu, c'est cette destinée d'être changé, ou de naître dans la famille spirituelle de Dieu. Nous savons ces choses, nous prions à ce sujet, nous y réfléchissons. Vous savez, Dieu conçoit et gère d'abord le physique, puis le spirituel. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, que nous appelons à juste titre le chapitre de la résurrection, nous lisons souvent les derniers versets où Paul dit « en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette ». Il parle d'un changement qui aura lieu dans sa famille, avec ceux qui se convertiront. Mais il y a des choses très importantes qui sont mentionnées plus tôt dans ce chapitre. Et Paul l'explique très clairement. Vous savez, il y a d'abord le physique, puis le spirituel. Et c'est ainsi que Dieu opère. Et nous vivons dans un monde physique rempli de plus de 8 milliards d'êtres humains physiques, qui sont tous, jusqu'au dernier, fait à l'image de leur Créateur. Or, la grande majorité ne le sait même pas. Mais le corps physique est en fait, et c'est intéressant, comme vous le lisez dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, fait à partir de la matière de l'univers, de la poussière de la Terre. En 1978, alors que l'Église commençait à mieux comprendre la nature de notre avenir et ce que les Écritures avaient à dire sur la nature de l'humanité et même sur l'Évangile, les éléments les plus profonds du message de l'Évangile, l'Église a publié un livre dont vous voyez ici une photo. Il était intitulé « L'incroyable potentialité de l'homme ». Et quand vous lisez le livre, vous réalisez qu'il a été publié avec l'idée d'expliquer le message de l'Évangile d'une manière légèrement différente, tout en se basant sur les Écritures. Il s'agissait de contrebalancer la compréhension limitée et fausse d'un message de l'Évangile qui existe dans le monde chrétien. Mais je pense que le titre du livre est intéressant, et je voudrais en lire un court extrait. Peu de gens se rendent compte que la reproduction humaine a une signification sacrée et divine qui ne s'applique à aucun autre type de vie. La reproduction humaine représente le salut spirituel qui est en fait Dieu le Père se reproduisant dans la famille divine. La famille humaine est le modèle exact de la famille divine. Dieu n'a accordé le mariage et la vie de famille à aucune autre forme de vie, sauf aux êtres humains, dont le potentiel est d'entrer dans la famille de Dieu. Vous savez, Dieu a conçu l'homme pour qu'il se développe et grandisse d'une manière qui lui est propre, autrement dit, celle de la famille humaine dont nous parlons au cours de ce message. Faite à l'image du Créateur, la famille telle que conçue et ordonnée par Dieu. Dieu est le Père en tant que Créateur. L'Église est mentionnée dans le livre des Galates comme étant la mère de nous tous. Et nous savons que c'est dans ce corps que nous grandissons, en tant qu'enfants, bien sûr, nés de la relation du Père et de la Mère. Et même le prophète Malachi a parlé de descendance divine. C'est ce que Dieu recherche, et c'est ce sur quoi il se concentre. Mais considérez la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. Quand la vie d'un fœtus humain ne signifie plus rien pour certains, quand cette institution, ce modèle de famille humaine, est démantelé, est déconstruit, vous assistez à la destruction de l'environnement principal dans lequel les humains sont censés s'épanouir. Vous assistez au chaos dans l'ordre créé par Dieu, à l'éradication du modèle de procréation et de la préfiguration du plan même du Créateur. Le résultat, bien sûr, c'est la déconstruction du sens et du but sacré de la vie humaine selon Dieu. Je vais lire maintenant un passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, qui est souvent qualifié de mystère, et notamment par l'apôtre Paul. Et je ne commenterai pas trop longtemps une partie de ce que je vais lire, simplement parce que l'objectif n'est pas de parler uniquement de la relation entre mari et femme. Remarquez au verset 22 d'Éphésiens, chapitre 5, Paul dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur ». C'est le but. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, mari que chacun aime sa femme. Comment? Comme bon vous semble? Non. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Au verset 28, et c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os, parlant de l'Église dans son ensemble. Mais il continue ensuite, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les vieux et les deux deviendront une seule chair. Et il revient à ce que nous lisons dans Genèse chapitre 2. Il fait ensuite cette déclaration, « Ce mystère est grand ». Et dans le mot en grec est « mysterion », un secret ou un mystère. Dieu ne nous a pas créés dans cette vie seulement pour manger et apprécier la nourriture. Et c'est bien mon cas, visiblement. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école, d'aller dormir, de se lever, d'aller travailler, de faire du sport, tout ce que nous faisons à sa place. Mais il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Et la grande majorité de l'humanité l'ignore. Le plan de Dieu, ce qu'il anticipe, c'est préfiguré par la famille humaine. Dieu le sait. Les êtres humains, pour la plupart, eux, ne le savent pas. Mais la plupart des chrétiens dans l'Église de Dieu le comprennent. La famille humaine, un mari, une épouse qui ont des enfants, ils prennent soin l'un de l'autre. Ils se sacrifient l'un pour l'autre, dans l'amour. Ils fonctionnent, ils travaillent ensemble comme les doigts de la main, pour assister et pour protéger l'autre. Nous avons une obligation sacrée, frères et sœurs, de préserver le modèle de Dieu. Avant de terminer, je voudrais vous donner trois éléments à emporter. C'est pas de la nourriture à emporter. Premièrement, nous devons faire attention, où qu'il se trouve, à l'impact sociétal et culturel qui nous affecte sur nous. Il y a de nombreux passages auxquels je pourrais me rapporter. Je ferai d'abord référence à Romains chapitre 1. Et nous savons que Rome a une histoire peu reluisante. Oui, Corinthe aussi, mais dans Romains chapitre 1, Dans Romains chapitre 1, Paul écrit à l'église de Rome, reconnaît qu'elle vivait dans un environnement moral très difficile. Il parlait d'hommes et de femmes qui s'écartaient du plan de la nature en termes de relations. Et c'est assez consternant quand on en lit les détails dans les versets 24 à 27 de Romains chapitre 1. Vous savez qu'il y a des impacts, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou qui se produit seulement au XXIe siècle. Ce genre de choses existait déjà et se répétait dans la culture de cette époque-là. Mais pensez à cela, pensez aux impacts dans les divertissements, non pas tous, mais influençant tout ce que nous trouvons dans la culture des médias aujourd'hui, les programmes pour enfants, les films. Ne soyons pas naïfs quant à la façon dont ces choses sont subtilement incluses. Comprenons bien que des gens se laissent entraîner par ces choses. Vous savez, dans 1 Corinthiens 6, il y a ce signalement très intéressant que Paul écrit de façon très encourageante, d'ailleurs, je pense, pour l'église de Corinthe. Les membres vivaient dans un environnement très difficile. Et certains de ceux que Dieu avait appelés dans l'église avaient des antécédents assez louches à certains égards. Et dans 1 Corinthiens 6, il énumère un certain nombre de perversions affectant les relations familiales et les relations sexuelles. Et il fait une déclaration. Il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Il y a évidemment de l'espoir pour le monde dans lequel nous vivons, mais nous devons être conscients de l'impact que cela peut avoir sur nous. Il y a une prophétie que nous ne devrions pas ignorer lorsque nous réfléchissons à cette question dans Ésaïe chapitre 5 au verset 20. Entre autres commentaires, le prophète Ésaïe fait cette déclaration « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Et lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et ses valeurs, nous discernons la nature fluide et inversée de la définition du bien et du mal dans la famille, dans le mariage, dans le genre. Et nous voyons que c'est mal. Et nous voici aujourd'hui en février 2025, comme dans cette chanson, rappelez-vous, des années 60, en l'an 2525. Nous voyons ici, aujourd'hui, en 2025, alors que nous prêtons attention aux paroles que nous avons lues dans les Écritures, que nous discernons ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons reconnaître quelle était l'intention de Dieu et ce que nous croyons être juste, correct, approprié, chrétien. Mais qu'en est-il de demain? Parlons de vous et de moi. Quand sera-t-il le mois prochain? Quand sera-t-il l'année prochaine? Vous savez, le péché a tendance à se normaliser. L'homme s'est éloigné de la voie de Dieu à plusieurs reprises au cours des millénaires. Et peu après le commencement, Dieu a détruit toute l'humanité, toutes les créatures terrestres, à l'exception d'une famille. Et il y a eu ce signe de l'alliance que Dieu a conclu avec l'humanité, selon lequel il ne la détruirait plus jamais. Et à chaque fois qu'il pleut et que le soleil se montre, nous voyons cet arc-en-ciel. Mais avançons maintenant rapidement jusqu'à la tour de Babel. Dieu a voulu ralentir le cours des événements à cause de ce qu'il a vu venir. Ensuite, nous trouvons l'exemple de Sodome et Gomorre. Vous savez, deux villes de la plaine du Jourdain que Dieu a totalement détruites. Nous connaissons le dialogue qui a eu lieu entre Dieu et Abraham. Et c'était une description terrible. Qu'en est-il de la fin des temps, du temps de la fin? Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, et même sous-entendu dans les récits de Luc et de Marc, que nous arrivons à un moment dans le futur où si Dieu n'intervenait pas, l'humanité se détruirait elle-même. Elle n'avait pas cette capacité au moment du déluge. Eh bien, aujourd'hui, elle l'a. Et Dieu va arrêter ce processus à cause de son ordre créé, à cause de son plan qu'il veut réaliser dans la vie des êtres humains. Satan a découvert l'arme ultime, je le crois, dans la technologie, dans sa façon de l'utiliser, avec l'accès instantané aux médias pour gaver littéralement les êtres humains sur tellement de sujets, pas seulement celui dont nous parlons. le péché est devenu la norme aujourd'hui, et il le sera encore plus dans les mois et les années à venir. Satan a pour objectif de tout redéfinir, même pour nous. Deuxième point à retenir et à emmener. Prenons vraiment le temps pendant ce sermon aujourd'hui de comprendre l'importance du plan de Dieu, son intention, son dessein pour nous, les êtres humains. Parce que, voyez-vous, il s'agit de l'étudier, il s'agit d'en parler, de l'enseigner, son dessein, son plan pour l'humanité. Et je parle de cela dans le cadre d'un plan plus large, en incluant la partie physique de notre vie humaine, son intention. Il est clair que Dieu veut que nous puissions franchir le pas de porte de cette vie mortelle en tant que personne convertie vers sa famille, afin que ce franchissement ne soit pas un pont trop loin, et qu'il y ait une compréhension spirituelle et un modèle de vie cohérent avec notre naissance dans sa famille spirituelle. Nous devrions donc l'étudier, nous devrions y réfléchir, en parler, méditer à ce sujet. Et lorsque vous faites vos promenades matinales ou que vous êtes seul, que vous ayez 18 ans ou 75 ans, pensez au fait que nous avons été conçus spirituellement parlant. Nous ne sommes pas encore nés. Ce changement auquel fait référence l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, nous ne sommes pas encore nés spirituellement et glorifiés dans sa famille. Et quand nous parlons à Dieu, comme Christ nous a dit de le faire dans Matthieu chapitre 6, nous disons « Notre Père ». Notre Père. Pas seulement « Ô Éternel, être le plus puissant de l'univers ». Il veut que nous nous adressions à lui comme notre Père. Il ne veut pas que nous oublions cela. Et nous l'enseignons à nos enfants. Vous savez, c'est formidable de savoir que dans notre programme d'enseignement parents-enfants, intitulé « Encourager, équiper et inspirer », nous avons, dans l'Église de Dieu, une discussion dirigée sur le sujet du genre. C'est une très bonne initiative. Elle est basique, mais elle est excellente. Ma seule remarque, c'est qu'il est important d'enseigner, de lire, de méditer et de prier à ce sujet, sur notre vie personnelle, notre mariage, notre famille, et dans les décisions que vous prenez en tant que jeune fiancé. Il n'y a pas de meilleur enseignant que l'exemple. Ce qui nous amène au dernier point à retenir et à l'importance, frères et sœurs, pour nous tous, de nous efforcer d'intérioriser, d'exemplifier et de vivre ce plan, indépendamment de notre statut de célibataire ou de divorcé dans certains cas, quel que soit le cas, d'exemplifier ce que nous comprenons de la famille et du plan de Dieu, en tant qu'homme, femme, mari, épouse, en tant que famille, en tant qu'enfant. Aimez vos conjoints, aimez-vous les uns les autres. Nous savons que Christ est incontournable dans son enseignement et sur notre besoin de construire des relations au sein de l'Église, fondées sur le véritable amour divin. Vous savez, notre exemple en tant qu'être humain est convaincant, il est puissant. Souvenez-vous de l'anthropologue évolutionniste que j'avais mentionné, le docteur Anna Machin. Elle a dit que l'évolution a sélectionné des traits humains uniques. Mais elle en ignore les origines, et manifestement, elle a choisi de les ignorer. Non, ils ne proviennent pas de plus de 500 millions d'années de sélection évolutive. Mais c'est le Créateur qui a conçu la nature unique du règne humain, son ordre créé à son image en tant que famille humaine. Un dernier passage dans 1 Pierre chapitre 2, verset 10, où l'apôtre Pierre parle du puissant impact de notre exemple. 1 Pierre chapitre 2, verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Il nous parle dans l'Église, il dit, bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Ne vous engagez pas dans une voie qui s'écarte du plan de Dieu, de sa voie de vie. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils ne comprennent pas pourquoi nous célébrons notre culte comme nous le faisons, mais afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres par votre exemple. N'oubliez pas que l'impact de votre exemple, maintenant, ne se manifeste pas toujours en termes de bons fruits dans la vie des autres personnes. Pourtant, l'exemple doit être donné maintenant, mais son impact sur les autres peut ne pas se manifester avant des mois ou des années. Et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera, lorsque Christ reviendra, lorsque la compréhension augmentera, l'exemple de votre famille, de votre mariage et de votre vie elle-même pourrait bien être le puissant témoignage de l'Évangile qui convertit les autres. Frères et sœurs, la prochaine fois que vous prendrez un nouveau-né dans vos bras, peut-être aujourd'hui même, et que vous lui chatouillerez les pieds, la prochaine fois que vous regarderez votre mère ou votre père, que vous vous asseyerez avec votre fille et votre fille sur vos genoux, et que vous dînerez avec vos parents un vendredi soir, n'oubliez pas que Dieu nous a créés hommes et femmes pour achever sa création. Il a conçu la famille afin que nous puissions comprendre qui est notre Père et quelle est la grandeur de son plan. Rappelez-vous que tous les êtres humains, qu'il s'agisse d'un Père dont les corps des enfants lui ont été rendus en Israël, d'une vieille mère ukrainienne dont la maison a été détruite, d'un petit enfant qui cherche de la nourriture dans une région rurale du Soudan du Sud, ou de vous et moi dans l'Église de Dieu, notre mère à tous, nous les êtres humains, chacun d'entre nous sommes marqués à l'image de Dieu, contrairement à tout être vivant sur la planète Terre. Souvenez-vous, frères et sœurs, que ce Dieu que nous adorons, notre Père Céleste, a un plan pour agrandir sa famille et dont nous ferons partie au siècle des siècles et pour toute l'éternité.